Bonjour tout le monde. On est un petit peu en retard aujourd'hui et je m'excuse pour cela. Nous n'allons pas chanter, on va simplement lire quelques versets pour démarrer notre réunion de ce matin. Et donc ces versets, je vais lire premièrement Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 10. Okay? Éphésiens chapitre 2, verset 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Le salut est un don, le don de Dieu. Et puis je saute un verset pour arriver au verset 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc on voit qu'on est sauvé par la foi, sans les œuvres, et que, une fois sauvé, Dieu prépare d'autres genres d'œuvres qu'il veut qu'on fasse, qu'on pratique. Et on va parler de ces choses un peu aujourd'hui. Je voudrais lire aussi dans Galates, parce que c'est la série dans Galates, que nous avons encore deux messages après aujourd'hui. Donc Galates chapitre 2 et verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et aussi, je voulais lire dans Galates chapitre 5 et verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. J'ai donné comme titre à ce message Principe de la vie nouvelle spirituelle. Et donc, c'est à travers les trois mots, la foi, la liberté et l'amour, que nous allons focaliser aujourd'hui le texte. Donc, auparavant, nous avons appris que Dieu met son Saint-Esprit dans le croyant en Jésus-Christ. C'est la nouvelle naissance, le début de la vie spirituelle, la vie éternelle. La vie chrétienne découle de cette présence divine qui, elle, cette présence divine, ne peut jamais pécher. Le croyant est devenu le temple, la résidence de l'Esprit de Dieu. C'est pour cela que le croyant est désormais capable de porter du fruit qui soit agréable au Père, et Jésus même nous dit qu'il désire que nous en portions beaucoup, beaucoup de fruits. En être capable de porter du fruit ne signifie pas que ce soit automatique ni facile. Ainsi, aujourd'hui, en poursuivant les thèmes dans l'Épître aux Galates, nous allons relever trois thèmes spirituels de la vie chrétienne. D'abord, nous allons parler longuement, on va passer pas mal de temps, sur la question de la foi. Puis, nous allons parler de la liberté et à la fin, nous parlerons de l'amour, autrement dit, la pratique du bien. Donc, commençons par la source spirituelle pour vivre par la foi. Nous avons déjà développé le thème des fruits de l'esprit la dernière fois. La mise en pratique de nos œuvres, de nos talents et de nos ministères peut être qualifié de spirituelle seulement quand celle-ci prend sa source dans les fruits de l'esprit. Le Saint-Esprit produit ou il reproduit en nous ses fruits. L'Esprit génère ses propres fruits divins. Ceci n'a absolument rien à voir avec les contrefaçons et prodiges trompeurs des mouvements actuels. En plus de produire les fruits, le Saint-Esprit distribue, y confie, et cela, c'est dans son propre désir, des talents, des œuvres et des ministères aux chrétiens. Ce ne sont pas les mêmes choses que les fruits. Okay? Les fruits et les talents ne sont pas les mêmes choses. Combien de fois les chrétiens ont pratiqué ces dons de grâce avec leur seule capacité humaine, sans être motivés par l'esprit, sans amour, sans patience, et donc sans produire de bénéfices pour Dieu. Pour le dire autrement, les œuvres de la chair ne peuvent en aucun cas produire des résultats agréables à Dieu. Paul nous met en garde dans 1 Corinthiens chapitre 13, disant qu'une personne ayant tous les dons de grâce n'est rien si les dons ne sont pas exercés dans l'amour. Quels que soient nos talents, les œuvres qui ne sont pas motivées par l'esprit ne plaisent pas à Dieu. Si vous désirez plaire à Dieu, il faut collaborer avec Dieu. Paul insiste dans Galates chapitre 5, verset 1, si vous vivez par l'esprit, c'est-à-dire si vous êtes sauvés, alors marchez en accord avec l'esprit. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Dire marcher selon l'esprit, c'est une façon pour dire vivre pour Dieu. Jean dit, qu'en marchant avec l'esprit, une personne ne commet aucun péché. Paul, en parlant de sa propre relation avec la loi, dans Galates chapitre 2, versets 17 à 19, nous n'allons pas lire les versets, mais vous pouvez les chercher, Galates 2, 17 à 19, Paul dit globalement qu'il est pécheur, condamné à mort par la loi, mais que, à la fin, sa culpabilité devant la loi l'a amené à invoquer la grâce en Christ. Par Christ, le nouveau Paul ne vit plus pour l'ancienne Saul, ni même pour la loi de Moïse, mais maintenant il vit désormais pour Dieu. Donc on voit dans Galates chapitre 2 et verset 19 à la fin du verset, il dit qu'il vit et maintenant c'est afin de vivre pour Dieu. C'est cela que nous voulons. Nous voulons vivre pour Dieu. Paul voulait vivre pour Dieu. Nous devrions vouloir vivre pour Dieu. Alors Paul ne voit pas sa vie chrétienne comme étant neutre. Il ne marche pas sur place pour faire passer le temps. Il ne se permet plus de pratiquer le mal ou de pécher contre Dieu. Paul vit pour Dieu. Il est actif. Il s'occupe à de nouvelles activités que Dieu lui a préparées, comme on a vu dans Éphésiens chapitre 2. Verset 10. Aussi vrai que Paul dit dans Romains chapitre 3, verset 28, que la justification est par la foi sans les œuvres, Eh bien, Jacques dit dans Jacques chapitre 2, versets 20 et verset 26, que la foi sans les œuvres est morte, stérile, creuse, vide, vaine, inutile. Alors Jacques ne dit pas cela pour nous réconforter. Ce n'est pas une bonne chose. Il dit ça pour nous motiver. Ce qui est vivant est normalement productif. Certes, une personne dans le coma est encore en vie, mais personne ne considère un état comateux comme étant une vie normale. Mes amis, nous sommes sauvés par la foi pour vivre par la foi, pour vivre selon la foi ou en accord avec la foi. Mais en tout cas, c'est vivre. Donc, je vais lire quelques phrases tirées de 1 Jean, chapitre 3, versets 3 à 10. Je ne vais pas lire tous les versets, je vais sauter certaines phrases, etc., parce que je veux focaliser sur l'idée. Donc, 1 Jean, chapitre 3, je vais lire quand même verset 3. Quiconque a cette espérance, c'est-à-dire l'espérance du salut en Jésus-Christ, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Dans le verset 5, il dit, Jésus a paru pour ôter les péchés. Au verset 7, petits enfants, donc il dit ça comme une phrase mignonne pour les croyants, petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Donc l'idée, c'est que Dieu désire que les chrétiens vivent selon la justice. À la fin du verset 8, nous disons, le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Au verset 9, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Donc la semence, c'est le Saint-Esprit. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Donc c'est l'idée. Quand on marche avec l'Esprit, on est mené sur la voie de la justice, on ne pèche pas. Quiconque, à la fin du verset 10, quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Non plus celui qui n'aime pas son frère. Donc, je reviens au verset 7 où il dit, petits enfants, que personne ne vous séduise. Selon ces versets, la personne qui croit en Jésus s'est engagée dans une guerre contre le péché. Vivre par la foi en Jésus, c'est prendre position contre le mal. La parole de Dieu est absolument opposée au faux enseignement selon lequel une personne a le droit à croire en Jésus et à continuer à pratiquer le mal et le mensonge. La foi en Jésus suscite des changements de vie. Jésus n'est pas venu pour nous aider à faire le mal, mais pour nous libérer de l'emprise du mal. Quelle honte de dire que vous croyez en Jésus si vous continuez à vivre dans le mal. Vous seriez en train de trahir Jésus. De son côté, Paul insiste sur la nature personnelle de la substitution du Christ sur la croix. À la fin de Galates, chapitre 2, verset 20, Paul dit, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Au début de ce même verset, Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Jésus a pris notre place à chacun sur la croix, portant la totalité de chacun de nos péchés Et c'est pour cela que Paul se considère crucifié avec son substitut. J'ai été crucifié avec Christ. Vous aussi, vous avez été crucifié avec Christ. Le verset continue. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ou à travers moi. Ici, comme aussi dans Romains chapitre 6, Paul parle de la vie nouvelle en Christ, une sorte de résurrection animée par l'Esprit de Christ. Par ce consolateur, l'Esprit de Christ, par ce consolateur, le Seigneur Jésus vit dans le croyant. Il vit en vous. Romains chapitre 6, verset 4 dit « Afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. » Cette idée « marcher »,« marchions en nouveauté de vie », c'est notre façon de vivre, c'est notre comportement maintenant. Donc, en attendant d'aller au ciel, cette nouveauté de vie est l'objectif de nos vies sur la terre. Dieu veut que les croyants soient des chrétiens, des disciples de Jésus, que nous vivions pour lui. Encore dans Galates chapitre 2, verset 20, nous lisons, si je vis maintenant dans la chair, donc dans mon humanité, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Dans la foi, ça veut dire par la foi, en faisant confiance au Fils de Dieu. C'est maintenant, ici-bas, sur la terre, que Paul vit en accord avec la foi. Et c'est maintenant, ici-bas, sur la terre, que vous devez, vous aussi, vivre en accord avec la foi. Dans Galates chapitre 3, verset 11, Paul affirme encore que personne n'est sauvé par la pratique de la loi de Moïse. Il dit, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est, il est dit, le juste vivra par la foi. Au risque de me répéter, je veux insister sur le fait que la foi chrétienne, la foi biblique, est objective. La foi focalise sur quelque chose. La foi s'attache à quelque chose. La fiabilité de cette chose-là vaut tout. La foi biblique s'attache non aux expériences religieuses, mais aux promesses de Dieu exprimées dans sa parole. Dieu est fidèle. Qu'est-ce que la foi? C'est quoi la foi? Alors, je vais expliquer. La foi est la capacité de faire confiance. Dieu a installé cette capacité de faire confiance dans tout être humain à la création. Ça fait partie de notre humanité. Nous avons la capacité de faire confiance. Que la personne soit croyant ou non-croyant, tous les deux sont capables de faire confiance. La grande question est, en quoi faites-vous confiance? En qui faites-vous confiance? Abraham a été justifié parce qu'il a cru à ce que Dieu a dit. Dieu s'exprime et l'homme doit croire. C'est pour cela que Dieu commande à tous de croire en son Fils Jésus et que Dieu condamne celui qui refuse de croire en son Fils. La capacité de croire est à la portée de chacun. En réalité, c'est par grâce, par amour, par bonté, que Dieu fait des promesses aux pécheurs que nous sommes. Nous y croyons pour devenir croyants, ou nous n'y croyons pas pour rester non-croyants. Le manque de foi chez les non-croyants ne change en rien les promesses de Dieu envers les croyants. Cependant, celui qui ne croit pas ne recevra pas le contenu de la promesse. La Bible ne dit jamais que la foi est un miracle que Dieu opère sur le non-croyant. Ça, c'est faux. La Bible ne dit jamais que la foi est un miracle que Dieu opère sur le croyant. La Bible dit « La foi vient de ce que l'on entend. » La foi vient de ce que l'on entend. Pourquoi la majorité de la population croit à la mythologie de l'évolution? Parce que c'est ça qu'on leur a enseigné. C'est ça qu'on entend à l'école et dans les médias. On sait que la population peut être manipulée par ce qu'elle entend. Une bande dessinée sur Facebook montait deux hommes côte à côte, l'un abattu, déprimé, l'autre joyeux, plein d'énergie. L'homme abattu demande à l'autre, « Pourquoi êtes-vous si joyeux ?» La réponse, « Je n'écoute pas les informations. » À chaque fois que vous entendez quelque chose, même ce message, vous faites le choix d'accepter ou de rejeter ce que vous avez entendu. Vous y croyez ou vous n'y croyez pas. Pour faire ce choix, vous évaluez la source et la véracité des données. C'est automatique. Or, il est vrai que dans ce monde tordu, nous ne sommes pas toujours en mesure de faire ce choix correctement. Et nous croyons parfois des mensonges. Jésus a dit, faites attention à ce que vous écoutez. Pourquoi? Parce que vous allez croire ce qui vous influence. C'est automatique. C'est pour cela que c'est tellement important que les gens entendent la parole de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend. Pourtant, Paul dit aussi que beaucoup de monde rejette le message de Dieu. Si vous voulez avoir une foi saine, soyez attentif à la parole de Dieu. Écoutez la parole de Dieu. Croyez dans la parole de Dieu. Dieu ne ment jamais. Il dit toujours la vérité. Ce que Dieu dit est bon pour vous. Croyez. Croyez. Ayez confiance. Le juste vivra par la foi, selon ce qu'il aura appris de Dieu dans sa parole. Dieu nourrira, il augmentera la foi de celui qui croit. Et de cette façon, le vécu de votre foi sera la nouvelle histoire de votre vie. Maintenant, nous allons parler de la liberté comme principe de vie spirituelle. Tout à l'heure, nous avons dit que Jésus est venu nous libérer du mal. La garantie même du salut est l'Esprit de Dieu qui demeure éternellement dans le croyant. Non seulement le Saint-Esprit nous rend capable de plaire à Dieu, mais aussi il libère le croyant dans plusieurs domaines. Il libère le croyant des conséquences éternelles de ses péchés, des liens du passé, du royaume des ténèbres, des enchaînements des péchés passés. Et c'est ainsi que Paul dit dans Galates chapitre 5, verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Cette liberté n'est pas la chute libre qu'on expérience après avoir sauté d'un avion et avant d'ouvrir le parachute. Elle n'est pas non plus le libertinage d'une vie sans bornes ou d'un homme hors la loi. Cette liberté, c'est la responsabilité, le droit, le devoir et même l'abstinence. Le résultat d'avoir été affranchi, c'est que l'on a enfin la capacité d'agir, agir comme on veut. Étant esclave, on travaillait pour un maître pour son bénéfice. Maintenant, affranchi, on travaille pour son propre compte. Mais on travaille. Paul explique la relation entre la liberté et l'amour dans Romains chapitre 14, que nous n'allons pas voir aujourd'hui. Le verset, chapitre 5, verset 1, continue. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Demeurez ferme, soyez vigilants de ne pas perdre votre liberté. Par servitude, Paul veut dire surtout la soumission religieuse à des règles, des rites et des traditions. Mais il nous met en garde aussi contre la servitude de tout péché et de tout vice. Le Saint-Esprit nous éloigne du péché et il nous enseigne des principes. Il ne nous enseigne pas des règles de vie, mais des principes de vie. Nous lisons dans Galates chapitre 5, verset 5. Pour nous, donc nous c'est les vrais croyants, ceux qui croient en Jésus-Christ. Pour nous, c'est de la foi. Donc de la foi, c'est par la foi ou à cause de la foi. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Nous attendons. Ceci n'est pas le sommeil. Soyons actifs, vigilants, vivants. Jésus dit, veillez, soyez sur vos gardes. Nous attendons l'espérance de la justice. Par la justice, ici, il veut dire le contenu de la promesse de Dieu, l'accomplissement de notre salut. Paul dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 2, « Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. » Donc, cette tente, c'est le moi physique, temporel, mortel, le moi actuel, en attendant le moi futur dans le domicile céleste. Nous gémissons. Donc, il va dire d'autres choses, mais le point là, c'est que la vie n'est pas facile. Il y a des tristesses, il y a des maladies, il y a plein de choses dans la vie qui ne sont pas agréables, et c'est pour cela que nous gémissons et on va voir d'autres choses. Nous aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nous. Verset 4. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance, donc en dépit de ces gémissements et d'être accablés, en dépit de tout cela, nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car, hein, ici-bas, car nous marchons par la foi et non par la vue. Pendant cette vie, nous sommes toujours dans ce corps mortel et pécheur. Mais notre avenir est auprès de Dieu dans les lieux célestes. Dieu nous forme pour cela. Le Saint-Esprit, donc les prémices de cette justification, les arts, il a dit dans le texte de l'Esprit, la garantie de la promesse, le Saint-Esprit nous a été déjà donné. C'est lui qui mènera à bien l'accomplissement des promesses. Nous attendons ce jour-là par la foi, avec confiance, en dépit de toute expérience ou circonstance, et nous continuons à marcher, à vivre par la foi. Galates chapitre 5, verset 6, nous lisons, « Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais, donc voilà ce qui compte, la foi qui est agissante par l'amour. » Par la liberté, Dieu nous donne ici-bas l'opportunité d'exercer notre foi, notre confiance. Et nous lui faisons confiance parce qu'il nous aime et nous l'aimons. Et de ce fait, nous aimons les uns les autres. Galates chapitre 5, verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par l'amour serviteur les uns des autres. La liberté, soumise à l'amour chrétien, nous rendra serviteurs les uns des autres, comme Christ lui-même s'est donné en exemple. Ceci n'est pas un service forcé, mais un service d'amour en faveur de son prochain. Galates chapitre 5, verset 14. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. La vie selon la foi et la liberté d'exprimer l'amour, la liberté de faire le bien. La vie de foi peut être une grande aventure avec Dieu. Chapitre 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Agir selon les désirs de la chair est encore un esclavage. Combien de personnes sont esclaves aux habitudes néfastes? Cigarettes, alcool, drogue, jeux de hasard, pornographie, la liste est sans fin. Beaucoup de personnes sont même satisfaites dans leur esclavage. Soyez libérés en Christ. Mais attention, vous devez remplacer vos mauvaises habitudes avec la marche avec Dieu ou vous allez vous retrouver rapidement de nouveau en esclavage. Chapitre 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. L'objectif même de notre salut ici-bas est le service que nous rendons à Dieu dans l'exercice de notre liberté chrétienne. Parlons enfin de l'amour. L'amour est le contraire de l'égoïsme. L'amour est la pratique du bien pour le bénéfice de l'autre. Regardons dans Galates chapitre 6, versets 6 à 10. Chapitre 6, verset 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Par son amour pour Dieu, le croyant va partager ses biens. Ce sera selon sa bonne volonté, et non pas contrainte, bien sûr, et disons même avec de la sagesse. En particulier, ce verset dit que les chrétiens devront partager leurs biens avec l'homme qui est responsable d'enseigner la parole, c'est-à-dire payer le salaire de leur pasteur. Paul enseigne au sujet du salaire du pasteur dans une autre lettre, donc on ne va pas parler de ça ici. Ici, le point, c'est que par amour, on partage. Partager nos biens fait partie intégrale de la vie chrétienne. Partager est un acte de la liberté selon la foi et une démonstration de votre amour. Dans le sens le plus large, le partage, c'est le don de soi. C'est drôle que tellement de chrétiens réagissent mal à ce principe. On pense tout de suite que l'Église convoite leur argent. C'est pour cela que Paul invoque immédiatement le principe de la semence. Le chrétien qui ne partage pas, qui ferme ses émotions à l'idée de partager, est en train de se moquer de Dieu, car tout ce que nous avons, respirons et même mangeons, ce sont toutes les choses que Dieu nous a données. Voulons-nous que Dieu retienne ou qu'il retire ses biens qu'il ne partage plus avec nous. Voilà, verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il moissonnera aussi. Ceci est un principe universel. La graine semée est identique aux épis récoltés, mais en plus grand nombre. Verset 8. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. De la même manière que nous allons croire ce que nous écoutons, et de même nous allons récolter ce que nous avons semé. Si vous semez selon la nature humaine, par exemple, si vous plantez des graines de méchanceté, ne soyez pas étonné de récolter la haine. C'est pour cela que nous devons nous assurer de s'aimer selon l'esprit. Mes amis, s'aimer pour Dieu, s'aimer le bien. Il y a tellement peu de bien dans ce monde. Et il y a beaucoup de méchanceté. Faire le bien, c'est pratiquer l'amour, car l'amour, c'est la pratique du bien. Verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Nous sèmons pour l'esprit en faisant le bien. Ça prend du temps, de la patience, mais avec suffisamment de soin, si vous ne vous relâchez pas, vous allez moissonner des fruits éternels. Verset 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Jamais Dieu nous dit de faire le mal. Toujours il nous dit de faire le bien. Le bien envers les frères, le bien envers tous, mais surtout il dit envers les frères et sœurs en Christ. Donc je vais faire un petit résumé. À travers les trois mots qu'on a vus, la foi, la liberté et l'amour, nous avons vu que la vie chrétienne est une manifestation du Saint-Esprit qui demeure éternellement chez le croyant. Le Saint-Esprit distribue des talents à chacun et il développe et produit des fruits spirituels qui sont à la base de la bonne utilisation de nos talents. La foi est le point de départ et donc on est sauvé par la foi, c'est le point de départ et Dieu augmentera la foi selon que nous marchions en collaboration avec son esprit. L'esprit nous libère de nos liens, péchés, etc., dont l'objectif que nous vivions ici-bas pour Dieu, en pratiquant le bien envers tous et surtout envers les autres chrétiens. L'amour, c'est la pratique du bien. Bon, j'espère que c'était un encouragement pour vous ce matin. Je répète les trois mots, la foi, la liberté et l'amour. Je vous encourage à lire le texte que nous avons lu dans Galates chapitre 2 et chapitre 5. Et que le Seigneur vous donne une bonne semaine, qu'il vous bénisse. Au revoir.